Salut à tous, bienvenue sur l'antenne de MDM, Electric Troubles, nez qui bouge au micro comme d'habitude. Voilà, Electric Troubles, émission du fanzine Kavzik. Mais ça, vous le savez depuis un moment. Maintenant, aujourd'hui, comme d'habitude, une interview. Ce sera celle du groupe Café Flèche. Voilà, un groupe qui... ça pète en fait, ouais, comme on dit, ça pète, un truc un peu hystérique. Je trouve ça vraiment excellent. Ils ont leur sorti un disque sur le label Head Records, dispo en format CD et vinyle. Donc il était important de les rencontrer. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera un autre groupe du même label Head Records. Il s'agira de Aeroflot, groupe bordelais cette fois. Voilà, que dire ? Tiens, je vous le glisse en passant. Quelques petites choses qu'il devrait y avoir, certaines sous réserve à la rentrée au Café Musique de Mont-de-Marsan. Donc les Fishbone viendront faire le set qu'ils n'avaient pas pu faire cette année pour des raisons médicales, vous le savez. Il y aura The Excitements, un groupe soul, alors je ne sais plus d'où ils viennent, en tout cas la chanteuse est rudement mignonne. Et puis ouais, c'est une espèce de petit Sharon Jones, là c'est vraiment super bien, c'est de Barcelone me semble-t-il. Il y aura The Pops avec quelqu'un qui faisait partie des Pogs à l'époque. D'ailleurs, si vous allez voir sur internet, The Pops, P-O-P-E-S, je crois. Je ne sais plus si le S est accroché ou pas. Et il y a notamment un duo avec Shai McGowan, l'ancien leader des Pogs, justement. Il y aurait sous réserve le Peuple de l'Herbe. Et puis, je crois que j'en oublie un. Ça y est, je ne sais plus. The Pops, The Pops. Non, bon, c'est pas grave. On verra. Ça m'en reviendra peut-être. Enfin voilà, une bonne petite programmation avec aussi de la scène ouverte, probablement une diffusion d'un documentaire État des lieux sur la scène indé. Voilà, je crois que... Bon, il y aura bien sûr la route des imaginaires à la rentrée, je sais plus si c'est septembre ou octobre, septembre je crois. Avec donc sur tout le parcours de la piste cyclable allant de Mont-de-Marsan vers jusqu'au domaine d'Onuas, etc. Il y aura plein de petits spectacles tout le long du chemin et ça se terminera notamment je crois par un concert des Touffes Chrétiennes. Voilà, au domaine d'Onuas. On va commencer aujourd'hui par Dumbbell. Excellent disque celui de Dumbbell. Je vous rappelle que dedans il y a notamment Nasty Sammy et puis comment il s'appelle, Turbo God, voilà. Donc les deux que vous aviez pu voir au Avanita. Et qui faisait partie de Simon Chainsaw, voilà, qui quand quelqu'un vient, qui a besoin d'une espèce de groupe à côté pour aligner de très bons morceaux. Ces deux musiciens, souvent quand il y a du bon son, décident de prendre la route à ce moment-là. Voilà, League by Herself, le disque est sorti sur Kicking Records, me semble-t-il. Ça y est, je ne sais plus. En tout cas, il y a un super format vinyle. Oui, c'est ça, Kicking Records, super format vinyle que je vous invite à découvrir. Voilà, c'est parti, du gros son, ce sera différent Dumbbell quand même de Café Flèche, il faut bien le dire. Better face the facts, I'm never coming home. Leave my-
Pas mal.
C'était à l'instant Dumbbell, donc League by Herself. L'idée est lancée éventuellement d'un concert à Mont-de-Marsan. Pour ce groupe, voilà, Nasty Samy m'a contacté et puis j'essaye de contacter d'autres personnes pour éventuellement trouver un lieu pour les faire ici. Je crois que c'est vers la fin octobre. Voilà, donc l'idée est lancée. Après, vous savez, entre l'idée et la réalisation des projets, bien souvent, il y a des kilomètres et des kilomètres. Voilà. En tout cas, on tente et on verra bien. Café Flèche, donc on va s'écouter un premier titre maintenant. Avant de retrouver Philippe, membre du groupe, le titre du morceau, c'est Girls Freak, extrait donc de ce dernier album. C'est parti, Café Flèche. C'était donc à l'instant un premier morceau de Café Flèche, donc Girls Freak, extrait de ce nouvel album, donc qui est sorti quand, Philippe ? Bonjour d'abord.
Salut. Il est sorti au mois de février. On avait fait quelques dates de release party pour la sortie, voilà, tout simplement.
Donc le titre, c'est quoi ? Lions will no longer be kings.
Be kings. Exactement, voilà. Ça, ouais.
D'accord.
Voilà.
Donc, ça vient d'où, ce titre-là?
Bah, ça vient, c'est, en fait, c'est un extrait des paroles de Thomas, en fait, qui est le chanteur saxophoniste dans Café Flèche. On a toujours fait ça, depuis le premier disque, en fait, on a trouvé le titre dans des paroles, dans des extraits de paroles. Alors, c'est pas non plus les titres des morceaux.
Ouais.
Mais c'est une phrase qui dit dans les paroles. Et puis bon, bah ça, au début, on l'avait pas fait volontairement, mais on a essayé de continuer. Dans chaque titre de nos albums, il y a un nom d'animal, en fait.
Ah oui, d'accord.
Okay. C'était Pig dans le premier, ouais. C'était Dog dans le deuxième, et là, c'est Lion. Voilà.
D'accord. Pourquoi ce choix? Pourquoi un nom d'animal? Vous êtes fixé là-dessus, pourquoi?
En fait, comme je t'ai dit, c'était au début, on l'a pas fait exprès. il se trouvait que la phrase qu'on avait retenue, il y avait un nom d'animal. Dans le deuxième aussi, et puis bah sur le troisième, on s'est dit, ça serait drôle de pouvoir continuer, quoi. Enfin voilà. Quoi. En plus, nous, ça nous donne des petits noms pour quand on parle d'un disque entre nous, on le nomme avec le nom d'animal. Quoi.
Ouais, ce qui est plus simple que les titres à rallonge.
Exactement. Voilà. Voilà, ouais.
Donc j'imagine qu'à un moment donné, vous allez monter un jeu pour que quelqu'un devine quel sera le prochain animal du prochain album.
Non, on n'a pas encore fait ça. Pourtant, on est assez fier du jeu et de comédie dans tout genre, mais ça, on l'a pas. Non, on n'a pas encore fait ça.
D'accord. Bon, est-ce que tu peux revenir un petit peu, s'il te plaît, sur la création du groupe, dans quel contexte ça s'est fait, qui y avait au départ et qui s'est greffé par la suite?
Au départ, en fait, il y avait deux groupes. Il y avait un qui s'appelait Alaska, dans lequel jouaient Jérôme et Vincent, qui sont guitaristes et le batteur de Café Flèche, et Toadstool, dans lequel je jouais avec Thomas, le chanteur, et Julien, qui faisait de la guitare aussi dans Café Flèche. Et il s'est trouvé qu'ils ont monté Café Flèche, s'est monté. En fait, moi, je me barrais pour mes études en Angleterre.
Ouais.
Et ils ont monté Café Flèche, en fait, pour déconner le temps qu'on pouvait pas répéter avec Toadstool. Et moi, je suis rentré d'Angleterre. Il y avait quelques morceaux, je trouvais ça marrant. Donc j'ai aussi voulu participer au truc, et puis au fur et à mesure, en fait, ce projet a pris le dessus sur les deux autres, en fait, et est devenu ce qui au départ était un truc pour déconner est devenu plus sérieux, quoi, tout simplement.
Quand tu dis pour déconner, c'était le style qui était pour déconner, ou c'était
L'ambiance un peu du truc, ils ont monté ça n'avait pas un but sérieux, quoi. Il n'y avait pas encore en tête d'enregistrer un disque, d'aller éventuellement faire des concerts plus loin que sans bornes autour de notre ville, quoi. Et puis aussi dans l'esprit, c'était essayer de faire un truc avec un esprit gros rock'n'roll, potache, moins sérieux, en fait, que les deux autres groupes qu'on avait. Donc voilà. Le truc a évolué, et puis les deux autres ont disparu, et Café Flèche a continué, quoi. Voilà.
D'accord. Quand tu dis esprit potache au départ, c'est-à-dire, mais ça se retranscrivait comment?
Tu prends la pochette de notre démo, notre première démo, c'est la gueule de Jérôme trafiquée dans une photo d'avion de chasse, enfin tu vois, à l'intérieur t'avais en photo la Renault 5 de Thomas, la super Renault 5 décapotable avec des grosses flammes rock'n'roll montées dessus en Photoshop, enfin tu vois, c'était vraiment, certains disaient que c'était puéril, nous on trouvait ça potage, enfin marrant. Ouais, voilà, c'était vraiment un esprit un peu con, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok, vous avez changé d'instrument par rapport à vos instruments initiaux, c'est ça, non?
Vincent et Jérôme qui jouent dans l'Aska, eux, non, ils n'ont pas changé. Mais dans Toadstool, Thomas, qui fait donc le chant dans le saxophone dans Café Flèche, il était à la batterie. Moi qui fais la basse, j'étais à la guitare et au chant. Et Julien qui faisait la guitare dans Café Flèche, faisait la basse dans Toadstool et du chant aussi. Donc effectivement, nous là, les trois Toadstool, on avait complètement changé les instruments.
Mais vous connaissiez ces instruments quand même? Vous en aviez déjà fait avant?
Disons que Thomas, lui, au niveau du sax, il a fait ça depuis très longtemps en école de musique et compagnie. Donc c'était un peu l'occasion de justement de de sortir son instrument qu'il connaissait depuis très longtemps dans un groupe. Et puis après du chant, non, on n'avait jamais fait. Il a découvert un peu qu'il savait hurler comme ça, tu vois. Mm-hmm. Et puis moi la basse, quand tu fais de la guitare normalement, ouais, tu sais faire de la basse. Et puis Julien, ouais, il savait faire de la gratte à côté. Il faisait de la basse, mais il savait faire de la guitare aussi, donc c'était pas non plus une révolution, quoi. Ouais. Voilà.
Ce niveau footrack dont tu parlais tout à l'heure, ça se ressent au niveau des textes, parce que là je maîtrise pas du tout.
C'est souvent un peu débile, voire même des fois un peu surréaliste, ces textes. Ça, tu te demandes un peu ce que ça veut dire. C'est un peu bizarre, quoi, mais oui, c'est souvent c'est souvent un peu drôle, des fois un peu vulgaire, enfin, mais ça se ressent, ouais, c'est pas intellectuel en tout cas.
D'accord. Donc pourquoi? Parce que là, est-ce que les paroles sont en fait plus des mots posés les uns à côté des autres pour pouvoir aller avec la musique plutôt que des textes réfléchis?
Il y a avant tout ça. Enfin, tu vois, Thomas, il prend le chant un peu plus comme un instrument que comme un moyen de faire passer un message en premier lieu, quoi. Donc tu vois, souvent, même des fois, les textes, c'est pas forcément le cas là sur le dernier où il a un peu rallongé ses textes, mais des fois t'as des morceaux où qui peuvent durer soit 4 minutes et t'as 3 lignes de chant dans les paroles, quoi.
D'accord.
Et qui vont se répéter tout le long du morceau, quoi. Mais c'est vrai qu'avant tout le chant pour lui c'est vraiment le côté musical et la sonore, comment sonnent les mots qui sont importants, quoi. Je te dis, sur ce disque là les paroles ont pris certaines sont un peu plus grosses au niveau taille. Ça peut-être évoluer dans le temps, quoi. C'est toujours pareil. C'est pas parce qu'il y a 5 ans, il avait envie de faire un truc d'une façon que 5 ans après, il n'a pas envie d'évoluer.
D'accord. Voilà. Jérôme disait, alors je sais plus trop où j'ai lu ça, que la musique de Café Flèche, c'était penser avec les tripes et jouer avec les couilles. C'est toujours la bonne définition.
C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est toujours dans la suite que je disais tout à l'heure au début quand on a monté le truc, il y avait un espèce d'esprit potage de faire du rock'n'roll sans vraiment trop réfléchir. Alors après, c'est vrai que si on compare à ce qu'on faisait vraiment au tout début, notre première démo ou au premier album, maintenant on est quand même un peu plus difficile. Ce serait faux de dire quand même qu'on prend n'importe quel plan et qu'on y va et qu'on fonce tête baissée. Enfin, tu vois, on est devenu peut-être un peu plus difficile sur les trucs. On essaie de réfléchir plus sur les plans, sur ce qu'on peut, comment ça peut s'enchaîner, comment ça peut tout ça se mélanger. Mais par contre, c'est vrai qu'il reste quand même un fond. Faut que ce soit du rock'n'roll et que ça envoie et que voilà. Et que sur scène, c'est surtout après sur scène, on se pose pas de questions. Tu fais tes morceaux et c'est vraiment un truc assez bestial, quoi.
Donc c'est rock'n'roll, tu dis?
Ah oui, c'est rock'n'roll, ouais.
Qu'est-ce que tu mets dans ce mot rock'n'roll par rapport à vous? Tu le vois où chez vous?
Je mets le côté primaire, en fait. Ouais. Primaire et sauvage, vraiment. C'est vraiment les deux trucs qui sortent, quoi. C'est même limite, tu vois, quand on est sur scène, c'est quasiment du sport, quoi. Enfin, tu sors de scène, tu nages de transpiration. Enfin, il y a même eu 2 ou 3 fois sur des salles où c'était pas, tu vois, où il y avait pas mal de monde et où il faisait hyper chaud en été, un truc comme ça. T'es limite à tomber dans les pommes, quoi, au bout de 3 morceaux, quoi, parce que, enfin, tu vois, c'est un peu comme faire un 100 mètres pendant 3 quarts d'heure, alors que t'as bu je sais pas combien de verre avant et tu mets je sais pas combien de clopes. C'est ce côté-là qu'on aime, nous, vraiment, et qu'on veut faire partager avec Café Flèche, quoi. C'est un peu, nous, les groupes qu'on avait vus quand on était un peu plus gamins, qui jouaient à fond et qui se posent pas de questions sur scène, c'est ça, quoi, qui est vraiment, vraiment principal, quoi.
Donc, chaque concert est le dernier?
Ouais, ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. c'est vrai, ouais.
Et le public est aussi lessivé quand...
Ça dépend, je te cacherai pas que autant ça nous a ça nous est arrivé de jouer devant une salle remplie et tout, et autant ça nous arrive aussi et même plus souvent de jouer devant 4 ou 5 personnes un dimanche soir dans un bar glauque, je sais pas, à Limoges ou un truc comme ça. Donc là effectivement c'est un peu plus enfin, c'est moins rock'n'roll, quoi. Mmh. Même si nous, comme tu disais tout à l'heure, on fait le concert, on se pose pas de questions, et puis, on envoie ce qu'on a à faire. Après, c'est sûr que t'as plus de répondants quand tu joues devant 200 personnes, qui sont eux aussi peut-être un peu alcoolisés, que quand tu joues devant 3 personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Mmh. Voilà.
D'accord. Pour ce nouvel album, qui c'est qui l'a enregistré déjà?
Miguel Tranquillo, c'est un mec qui habite en Bretagne, enfin il est souvent aussi au Portugal, s'il vit dans son camion, donc il est plus souvent au Portugal à aller surfer que vivre en Bretagne, où il y a moins de vagues. Mais en gros, ouais, c'est Miguel, il avait déjà bossé avec Marvin, avec Papier Tigre, avec Papaye, et donc c'est un mec qui est assez connu pour son vraiment live, un peu à la manière de ce que peut faire Albini. Et nous, ça nous intéressait de bosser avec un gars qui soit vraiment pour celui-là, qui soit justement dans ce type de prise de son, quoi, complètement prise live, avec qui quasiment passe plus de temps à placer son micro devant l'ampli pour avoir vraiment un son brut déjà à la base, qui soit proche de parfait, que de mettre le micro et de tout rattraper derrière avec des plugins informatiques et compagnie. Voilà.
Donc quand vous enregistrez, vous enregistrez ensemble ou séparément?
Là, ouais, pour celui-là, on a enregistré tous ensemble. D'accord. On était tous ensemble dans une caisse. Mis à part le chant et le sax qui se sont fait à part.
Ouais.
Mais tout ce qui est ma guitare, batterie et basse, ouais, on a tout fait ensemble. Ouais.
Ouais, parce
c'était
que
c'est pas le cas, par contre, sur celui d'avant. Tu vois, on avait fait basse, batterie et puis la guitare à part. Mais on a trouvé qu'en fait c'était mieux pour garder l'énergie, la musique, en fait, de jouer tous ensemble comme à un concert, quoi.
D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même une espèce de notion de d'une certaine manière d'hystérie un peu musicalement, donc j'étais en train de me demander justement si c'était pas compliqué de le faire quand on était dans un studio et un peu séparé, tu vois, chacun de son côté, là, pour arriver à remettre tout ça et remettre l'énergie en commun. C'est quand même pas
facile. c'est dur, c'est pour ça que je dis, pour celui-là on a voulu recommencer comme on a fait sur le premier, ce qu'on appelle la prise live, où on est tous les trois dans la même pièce. Alors après, bon, t'as quand même toujours un peu des choses, enfin, tu vois, tes amplis, ils sont pas dans ton dos, ils sont dans une autre pièce, donc t'entends ton instrument à travers un casque, tu l'as pas directement comme tu l'as en salle de répète. Donc t'as quand même des différences, mais bon, tu kiffes au bout d'un moment, et puis voilà, quoi.
Ok, bon, écoute, on va se passer un deuxième morceau, donc Surf Guru, et puis on se retrouve juste après. C'est parti.
Pas de problème. We'll be right back.
Voilà, donc à l'instant, c'était Surf Guru. Quel est pour toi le fil conducteur de l'album? Est-ce qu'il y a un fil conducteur déjà? Ou est-ce que c'est des morceaux posés les uns à côté des autres?
Ouais, il y a quand même un fil conducteur, sachant que vu qu'il est sorti en format vinyle, faut penser un peu le disque comme si c'était deux petits disques en fait, tu vois, chaque face.
D'accord.
Et donc tu vois, enfin, c'est assez important que le premier morceau soit un morceau qui soit rentre dedans.
Mmh.
Et puis on fait aussi assez attention à ce que le dernier morceau de chaque face aussi soit quelque chose d'assez marquant.
Mmh.
Mais voilà, après c'est un espèce de mélange de feeling, de comment on sent, comment on va mettre les morceaux, et puis aussi de timing, parce que pour que ça loge sur une face de vinyle, tu vois, faut que les timings soient bien comme il faut. Voilà, donc en gros, voilà, c'est un espèce de mélange de feeling et de mathématiques, quoi.
Tout d'accord. Quand vous composez, vous partez sur quoi? Sur un cri, sur un riff violent, je sais pas.
La grosse partie du temps, en fait, c'est Jérôme qui nous envoie par mail. En fait, il a enregistré un ou deux plans. Même des fois, ça va peut-être un peu plus loin avec un début de structure, voilà. Et puis, bah après, ce qui nous intéresse, on le bosse. Et puis ça évolue en salle de répète, suivant moi les parties que j'ai amenées à la basse et les parties de batterie. On continue à faire à construire le morceau tous ensemble. Et puis après, une fois que la base est plus ou moins posée, il y a Thomas qui vient et qui met son chant et son sax par dessus. Ça peut des fois même faire changer un peu la structure, enfin tu vois, le nombre de fois qu'on joue tel ou tel plan par rapport, tu vois, au chant. Mais voilà en gros comment ça fonctionne, et ça c'est à peu près pour 99% de tous les morceaux.
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'il arrive que Jérôme vienne avec un morceau et que vous lui disiez non, c'est pas dans la lignée de Café Flèche?
Ça arrive. C'est déjà arrivé. Après lui, en plus, ça l'empêche pas de recycler le plan dans un de ses autres projets. Mmh. Il en a deux autres. Mais c'est arrivé. C'est même arrivé qu'on lui dise non et puis qu'il nous repropose le plan un an après et puis qu'on le voit d'une autre façon et que tu vois, après lui, il est content, il a réussi à le placer. c'est déjà arrivé là.
Quoi, parce qu'il modifie le plan, quoi, et il s'adapte.
Ouais. Tu sais, Jérôme, c'est quelqu'un qui a la tenace quand il a une idée en tête. Donc, il abandonne pas, quoi. Voilà.
D'accord. C'est pas trop difficile d'arriver à mêler des bonnes mélodies avec un peu de furie?
Bah, ça, je t'avouerais que c'est vraiment. C'est Jérôme qui, tu vois, pour tout le côté mélodie, en fait, c'est lui qui apporte. C'est vraiment un mec qui sait trouver des bonnes mélodies avec sa gratte. Et donc c'est quand même lui qui apporte tout ce côté-là. En plus, lui, il est vraiment à cheval là-dessus. Quand t'écoutes un peu pas mal de groupes noise, un peu comme nous, c'est vrai que souvent la rythmique qui prend le dessus sur la mélodie. T'écoutes des trucs, même des trucs connus comme Shellac. Tu regardes vraiment au niveau des mélodies, il y a pas grand chose, c'est souvent deux notes, tu vois, et c'est au niveau de la rythmique que tout se fait. Et Jérôme, il a vraiment, comme nous tous, mais tu vois, c'est un enfant des Beatles, donc pour lui, la mélodie, elle est hyper importante. Et je crois que c'est un peu ça aussi qui fait le côté intéressant du groupe dans Café Flèche, c'est que c'est pas non plus. Enfin, tu vois, ça joue pas tout sur la rythmique, mais que la mélodie apprend un côté vraiment assez important, quoi. Donc ça, on fait gaffe à le garder. Ouais.
D'accord. Pour ce qui concerne Thomas, donc au chant et au sax, c'est quand même pas anodin faire les deux, et surtout de la manière dont il est fait. Il doit être quand même sacrément lessivé, le type, non?
Ah ouais, carrément. quand tu nous vois sur scène, ça doit être lui le plus impressionnant à voir. Quand tu le vois sortir, après, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du sport, quoi. Et en plus, il le fait, ouais. Il se protège pas, tu vois. Il se protège pas, c'est-à-dire que il fait pas, il y a pas des passages, tu vois, où il dit je vais y aller plus mollasson parce que c'est que je sais que dans 3 minutes, il va falloir envoyer encore plus. Il ne se pose pas de questions, il va tout le temps à fond, quoi.
Ouais.
Et c'est assez impressionnant. Ouais.
Et quand il est arrivé avec tous ces saxophones là au départ, ça n'a pas été compliqué de.
Alors, en fait, au tout début, il avait un espèce, un instrument qui s'appelle. J'ai oublié le nom. Il va m'engueuler quand il entendra le. Parce qu'il est clair, en plus, en ce moment, c'est un espèce de mélange entre une trompette, enfin, c'est un truc à piston. Mmh. Il avait trouvé ça sur une brocante et il voulait absolument jouer de ça. Sauf que bon, il savait pas trop en jouer, c'était pas. On lui a dit, prends donc ton saxophone, au moins tu sais en jouer. Et en fait, c'est là où il a trouvé. Il a trouvé en fait un sax baryton. Mmh. En fait, c'est son instrument qu'il a sur scène.
Ouais.
Donc, c'est un énorme sax. Je sais pas si t'en as déjà vu.
Oui, j'ai joué du saxophone.
D'accord, ok. Donc, c'est vraiment un énorme sax. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, un saxophone comme il avait avant, je crois que c'était un soprano, tu vois, c'est un son hyper aigu et ça allait pas forcément avec le style. Et là, le sax baryton. Ça a vraiment des grosses basses et en plus il y a un côté visuel qui est assez chouette
sur scène.
Donc il est passé là-dessus et voilà là tout de suite il a pu vraiment faire des vraies mélodies avec son sax, tu vois, il a pu aller plus loin que ce qu'il faisait avant, quoi. Mais par contre c'est vrai qu'après sur disque ça l'empêche pas d'en sortir plusieurs, quoi. Il y a aussi sur disque, il y a du soprano, il y a voilà, j'ai retrouvé le nom de l'instrument, ça s'appelle la pichotte.
Ah,
voilà.
Ouais, je connaissais pas.
D'accord. Okay. Et donc ça aussi, tu vois, il en a foutu sur le dernier disque de la pichotte. Enfin, voilà, ça l'empêche pas d'utiliser plusieurs trucs sur disque. Après, sur scène, c'est tout fait au baryton, quoi.
Ouais. Et le baryton, ça amène quoi, justement, sur scène? Une espèce de deuxième basse, un gros son, là, profond?
Ouais, c'est ça, ouais. Ça va être un mélange de basse et de mélodie, quoi. Et puis voilà, puis ça amène aussi, comme je disais, un gros côté visuel, quoi. C'est pas tous les jours que les gens voient ça sur scène. Ça change, tu vois, du classique trio rock, guitare, basse, batterie. Et voilà, quoi.
Donc j'imagine qu'à certains endroits, il doit être quand même un peu abîmé, son baryton, non?
Ouais, il a pris 2-3 coups. Après, de toute façon, lui, c'est son boulot de réparer ce genre d'instrument. Donc, ça va, il sait y faire. Mais c'est vrai que, ouais, souvent, il part en révision, son instrument.
Et au départ, lui, il a quoi comme formation? Formation classique, formation, je sais pas, free jazz ou j'en sais rien.
Alors là, je t'avouerais que je crois que ça doit être une formation classique. Enfin, tu vois, c'est l'école. Il a commencé à l'école de musique de la ville, là, tu vois. Alors c'est pas le conservatoire, c'est lié au conservatoire. Puis après, ouais, il a terminé au conservatoire parce qu'au fur et à mesure, il a grimpé au niveau et compagnie. Et donc, le truc dans notre petite ville, ça suffisait plus, tu vois, à le faire évoluer. Et puis il a terminé un peu au conservatoire et il a fini par arrêter. Tu vois, il y a un moment où ça ne sert plus vraiment à grand-chose de vouloir passer des diplômes, machin, bidule. Il a continué simplement à jouer tout seul, quoi.
Ok. Voilà. Bon, on va se passer un troisième morceau, Black Crow, et puis on se retrouve juste après pour parler un petit peu concert et puis des choses que vous aimez musicalement, notamment.
Ok.
Voilà, c'est parti.
Look your head!
Voilà, donc c'était Black Crow à l'instant. Donc, quelques petites questions encore. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, est-ce que parallèlement à ce que vous écoutez en termes de musique, ou surtout ce que vous faites en termes de musique, vous avez, y en a qui s'intéressent, je ne sais pas moi, à tout ce qui est film, bouquin, etc. Et éventuellement, savoir surtout si ce que vous lisez ou ce que vous regardez en tant que film, c'est dans le même style, c'est-à-dire des trucs un peu barrés, quoi, tout simplement.
Bah ouais, alors même si c'est moins important que la passion de la musique, enfin, c'est vrai qu'on lit tous un peu ou on s'intéresse aux films, des trucs comme ça. Après, certains, je sais que Jérôme, c'est vraiment un gros dévoreur de bouquins. Moi, peut-être un peu moins, tu vois, je suis plus peut-être branché sur films et compagnie. Mais ouais, on s'arrête pas forcément qu'à la musique. Mmh. Alors après, dans les styles, bon, ça va être un peu dur de parler des goûts littéraires de Jérôme, des trucs comme ça.
Ouais, ça, il l'avait déjà fait.
Ouais, d'accord. Mmh. Mais tu vois, après, ouais, au niveau cinéma, c'est vrai que on aime un peu, ouais, les trucs un peu barjots, ça on aime bien, enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux te citer, enfin, tu vois, on est tous fans de Jean-Pierre Mariel en tant qu'acteur, tu vois, des trucs comme ça, enfin, Calmo, c'est un de nos films qu'on adore, ouais, on aime ce genre de trucs, ouais.
D'accord. En termes de musique que vous écoutez actuellement,
et, ouais.
Voilà, de choses récentes. Bon, après, on peut aborder aussi, bien sûr, les goûts de groupes plus anciens, groupes habituels, tu sais,
ouais.
Des scènes auxquelles on fait référence souvent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les trucs de maintenant, quoi.
Bah, ça aussi, on a tous un peu une personnalité dans le groupe. Va être un peu différente, même si on se retrouve sur énormément de choses. Je sais que Thomas, par exemple, lui, il va un peu, enfin, tu vois, il va s'intéresser à des trucs de jazz, même si ça peut faire un peu cliché que le saxophoniste s'intéresse à des trucs de jazz. Mais ouais, il va y aller peut-être plus facilement. Jérôme, lui, comme je te dis, c'est vraiment un fan des Beatles, donc tout ce qui est pop, voire folk, il va s'y intéresser. Moi, je suis peut-être un peu plus le gars qui est toujours un peu dans la crise, donc il va aller chercher les trucs un peu obscurs, tu vois, qui sortent à très peu de copies. Voilà, alors que les autres vont peut-être pas forcément aller chercher ces choses-là. Donc voilà, après, on se retrouve globalement tous sur la même base. Et là, ça va être les groupes dont, comme on disait, qu'on cite tout le temps, qui sont des références et qui sont pas forcément nouveaux, quoi. Voilà.
D'accord. Vous avez écouté l'album qui doit sortir chez Red Records d'Aeroflot ?
Moi, je l'ai pas écouté. Mmh. J'ai écouté un morceau du truc. J'ai pas eu le temps d'écouter tout le disque. On avait joué avec eux à Montaigu il y a quelques années. Voilà.
Ok.
Mais j'ai pas eu le temps de jeter un oreille sur le disque. Non.
Et dans les groupes avec lesquels je vous jouais de temps à autre, là, il y a des choses qui vous ont marqué ou des groupes qui sont que vous voyez régulièrement et que vous aimez bien.
Ouais, bah c'est sûr. Enfin, là, c'est le milieu, il est un peu petit, donc on se. On se retrouve assez régulièrement. Nous, on avait fait une tournée avec Ofoam, un groupe de Montpellier. Voilà, on est super potes avec eux. Après, ben voilà, toute la bande de Montpellier, que ce soit Marvin, PD, Super Beatnik, voilà, tout ça, c'est des potes. Et c'est pareil à Nantes, t'as toute la scène, Papaye, Papier Tigre, il y a Pneu. Tout ça, c'est des groupes avec qui on est potes et... C'est toujours sympa de faire des concerts avec eux. Et c'est des groupes dont on aime vraiment beaucoup les disques. Tu vois, ça ne se limite pas. Parce que tu sais, des fois, tu peux trouver des gens sympas et pas forcément aimer leur musique. Mais là, c'est pas le cas. On aime vraiment. C'est vraiment. Enfin, moi, je trouve vraiment que la scène, là, en France, elle est vraiment intéressante, quoi. Par rapport à ce que. Tu vois, il y a eu, pendant les années 90, il y a eu tous ces groupes noise, à la française, comme on dit. Il y avait une scène qui était vraiment assez importante. Et puis dans les années 2000, il n'y avait pas grand-chose. De trucs intéressants. Et là, je trouve que depuis quelques années, tous ces groupes-là sont apparus, tu vois. Il y a un peu les enfants ou les petits frères de justement de la scène 90. Mmh. Et il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Quoi.
D'accord. Vous avez fait des dates à l'étranger, vous ?
Quelques dates par-ci par-là, en Allemagne, en Espagne, mais c'est pas la majorité, quoi. C'est surtout en France.
D'accord.
Vu qu'on n'a pas trop de temps pour tourner, vu qu'on a tous des boulots, tu vois, c'est un peu la solution de facilité d'aller tourner en France. Après, on a toujours le rêve d'aller faire des dates aux États-Unis. ça, c'est un truc qu'on a depuis quelques années. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mmh. Mais voilà, quoi.
Ok, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Je vais te remercier.
Je vais faire un peu de promo. là, on est en train de préparer une tournée début septembre, en fait, avec un groupe américain qui s'appelle Hawks, avec qui on avait sorti un split 45 tours il y a un an. Ouais. Donc, ils viennent en France. C'est la première semaine de septembre, voilà.
Ouais.
On a 8 dates de Calais. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant de les voir sur scène parce que moi je suis content de jouer avec eux et je suis surtout hyper content d'enfin les voir sur scène parce que les quelques vidéos que j'avais réussi à voir sur YouTube, ça m'avait bien foutu sur le cul.
Ah, parce que le split que vous aviez fait n'avait pas été un support à tourner.
Bah, ça avait été quand on l'a fait, je pense que même si on se l'était pas vraiment dit nous dans nos échanges de mails, mais c'était tout le monde avait ça en tête. Aussi bien eux que nous, mais bon après vu qu'ils sont pas plus connus que nous, enfin tu vois c'était toujours un peu délicat d'organiser tout ça. Et là enfin ouais ça s'est fait. En fait là leur nouveau disque il va sortir c'est chez Réjuvénation, un label Paris que je connais certainement. Mmh. Et donc du coup bah Greg de Réju est en train de monter cette tournée en fait au mois de septembre voilà quoi.
D'accord, ce split est disponible sur le Bandcamp, je crois.
On peut l'écouter, ouais. Chez nous, au niveau physique, je crois qu'on devrait pouvoir avoir plus qu'une copie ou deux copies qui traînent dans dans notre merch. On en a quasiment tout vendu et je pense que aussi de leur côté, ils ont tout vendu. Mais après, ouais, on peut écouter les quatre morceaux. Parce qu'en fait, c'était deux 45 tours. Il y avait un 45 tours par groupe.
Ouais.
Et donc il y avait deux morceaux par groupe. Donc les quatre morceaux sont écoutables sur Bandcamp.
Ok, bah écoute, merci beaucoup.
Bah de rien.
Et donc en espérant vous voir sur la route, ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant.
Ouais.
Voilà. Donc on va se tenir au courant de la suite de ce qui se passera pour le groupe et donc éventuellement de cette tournée en septembre. Ouais. Voilà, un grand merci à toi.
Bah merci à toi.
Et à bientôt. Au revoir.
Salut.
It's basic now. What a trap!
Voilà, donc à l'instant, c'était The Slit Plasters avec Boomer is a Twat. Et juste avant, un dernier morceau de Café Flèche avec Reading the Cause. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons donc en interview les excellents Bordelais d'Aeroflot. Il va me rester encore quelques interviews à caler d'ici la fin du mois. Donc je vais aller chercher tout ça. Je vous rappelle que vendredi soir, il y a la playlist sur MDM, donc à 23h, la playlist Electric Troubles. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. On va se quitter sur deux morceaux. Le premier, ce sera The Finkiel Krotz, les Toulousains, avec Colonizer Sony, je crois, et dans la foulée, les ancêtres du Wedding Present avec un million, je sais plus trop quoi, enfin bon, peu importe. Allez, ciao, bye bye, et à la semaine prochaine.
Don't be worried about your friends. I think so. history lesson time round ten. What was her name again? You're not like anyone I've ever met. You're not like anyone I've ever met. Do you see much of Charlie over here? Oh, I've known him off and on for years. He's never mentioned you before. Oh, that didn't come out right at all. And now I feel this small. That seems to be it, don't get me wrong. But how are you gonna get back home? Oh, I'd be willing to walk that way. There's something I've just got to say. I could walk a million miles today. You're not like anyone I've ever met. You're not like anyone I've ever met. Get bursting out with laughter all the way home. I had to tell somebody and you happened to phone. Of anything else, no matter how I try. Which no, I can't even remember the color of her eyes, and that's right. I've ever met. You're not like anyone I've ever met. Or at least not yet.